Et si on parlait de Saint-Joseph ? Abbé Philippe Baïtia, chancelier et responsable du service de pastoral liturgique et sacramentel du diocèse de Bayonne, au micro d'Alexandra Guerre.
Nous retrouvons l'abbé Philippe Baïtia pour cette 8e et dernière émission consacrée à Saint-Joseph. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons parler du culte rendu à Saint-Joseph. Alors, comment ce culte à Saint-Joseph est né dans l'Église ?
On voit que dans les évangiles, Saint-Joseph est un homme discret. Eh bien, le culte va être un peu à son image, parce que ce culte de Saint-Joseph ne sort de l'ombre qu'au XIIIe siècle, à partir du XIIIe siècle, donc dans les années 1200.
Pendant 13 siècles, on ne parle pas de Saint-Joseph, ou très peu.
Oui, on parle de Saint-Joseph dans des textes, des évangiles apocryphes, des choses comme ça, mais de culte, de fête, on n'a pas. Et donc, ce culte est en lien, en relation avec une attention à l'humanité du Christ. Et voilà, Saint-Joseph va apparaître comme l'homme humble, modeste, obéissant, comme le père adoptif de Jésus. Et cette figure va séduire les franciscains. Ben, vous vous souvenez, Saint François d'Assise, la première représentation de la crèche. Donc voilà, sur l'attention à l'humanité concrète de Jésus, donc aussi à sa famille. Et les franciscains vont adopter la fête, une fête de Saint-Joseph, le 19 mars en 1399. Alors, pourquoi 19 mars ? Parce que dans un martyrologe, le livre où il y a tous les martyrs, il y avait un Joseph, mais qui était un martyr ce jour-là, et qu'on a dû, dans un premier temps, le confondre avec le père de Jésus, et voilà. Et donc, Joseph va être présenté comme modèle de tous les chrétiens. Un autre moment important, c'est le XVe siècle, c'est le grand schisme. On a deux et trois papes avec tout le désordre qu'il y aura dans l'Église, la société. Par chez nous, il y a la guerre de Cent Ans, enfin, on va dire. Donc, au XVe siècle, il va y avoir une promotion du culte de Saint-Joseph et il y a un personnage qui est important, c'est le chancelier Gerson, le grand chancelier Gerson, qui est chancelier de l'Université de Paris, un célèbre théologien de l'époque qui va multiplier les écrits pour célébrer les noces de Joseph et de Marie, pour louer la paternité responsable de Joseph. Et à la fin du XVe siècle, on a l'institution d'une fête de Saint-Joseph. Alors, les dates vont un peu bouger avant de s'établir au 19 mars. Et cette dévotion populaire, donc, qui a commencé au XIIIe siècle, trouvera son aboutissement au XIXe siècle.
En France, quand est-ce qu'un culte est rendu à Saint-Joseph ?
En France, il y a des dates importantes. Vous avez en 1611 la fondation par les Carmes de l'église Saint-Joseph à Paris, qui existe toujours, qui est l'église de l'Institut catholique de Paris. Et c'est la première église qui lui soit dédiée. On se souvient que pour Sainte Thérèse d'Avila, Saint-Joseph est important, lui confier un peu toutes des fondations un peu chaotiques, difficiles, la fondation de ses couvents. Elle le met au coin quand il ne répond pas à ses demandes. Et elle considère, elle écrit d'ailleurs, que c'est aussi un maître de vie spirituelle. Et donc, quand elle fonde ses couvents, elle dit, mais voilà, à une entrée du couvent, il faut mettre la statue de la Vierge Marie, à l'autre entrée, celle de Saint-Joseph. Donc, voilà, les religieux carmes, fils de Sainte Thérèse, ont suivi cette inspiration.
Si je demande à nos auditeurs de nous dire des endroits où la Vierge Marie est apparue, il y aurait plein de réponses. Si je demandais à ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il y a eu des apparitions de Saint-Joseph ? Je crois qu'on serait bien en mal de répondre.
Mais il y en a quand même une en France, le 7 juin 1660 à Cotignac. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a un berger qui porte le nom de Gaspard Ricard qui souffre de la soif et il se trouve dans un endroit dont on sait qu'il n'y a jamais eu de source et qu'il n'y en a pas. Et à un moment donné, lui apparaît un homme qui lui ordonne de soulever une grosse pierre, une immense pierre, pour trouver de l'eau. Et cet homme dit s'appeler Joseph. Il va soulever cette pierre, alors qu'il n'a pas les forces pour le faire, il va trouver l'eau. Et bien sûr, il va le dire donc aux gens qu'il connaît, qui trouvent que c'est complètement farfelu ce qu'il raconte. Donc on va venir, on va voir la source. Quand on va vouloir soulever cette pierre, on n'y arrivera pas. Alors, à travers cette apparition, nous sommes dites deux choses importantes. D'une part, que Saint Joseph, puisque c'est ce personnage qui apparaît à Gaspar Ricard, vient en aide aux hommes dans leurs difficultés, notamment dans les difficultés de la vie concrète, de la vie du travail, voilà. Et d'autre part, il s'agit de la découverte d'une source d'eau, de l'indication par Saint Joseph d'une source d'eau. Et cette source d'eau, c'est le signe de la source d'eau vive qu'est le Christ. Donc l'importance de Saint Joseph pour la vie spirituelle, pour l'accueil de la grâce du Christ.
Donc apparition de Saint Joseph en 1660 à Cotignac, il y a donc un sanctuaire qui lui est dédié.
Il y a un sanctuaire qui lui est dédié avec, je crois, à côté un monastère de bénédictines aujourd'hui. Voilà, on avait été avec le séminaire il y a quelques années, l'année de l'élection du pape François, on se trouvait dans ces parages-là.
Y a-t-il eu d'autres apparitions en France et dans le monde de Saint-Joseph ?
Que je sache, non. Après, il est possible qu'il y ait eu...
En tout cas, pas reconnu par l'Église.
Pas reconnu par l'Église et, mettons, pas d'apparition style lourde, vous savez, c'est-à-dire une apparition de Saint-Joseph pour une communauté, mais qu'il y ait eu peut-être ce qu'on appelle des révélations privées, des apparitions privées à des chrétiens fervents, voilà, un contact particulier avec Saint-Joseph, c'est possible.
Alors, il y a eu des religieuses et des religieux qui ont eu à cœur de faire connaître le culte à Saint-Joseph.
Voilà. Entre autres, la bienheureuse Anne-Marie Javouet. Le roi Louis-Philippe disait que c'était l'homme le plus important de cette époque.
C'était donc ça, c'est au 19e.
Alors, elle naît en 1779. Elle meurt en 1851. Elle connaît la terreur. Elle va donc à des messes clandestines. Et c'est là que va un peu se dessiner sa vocation. Et donc, elle a été béatifiée par le pape Pie XII en 1950. Elle va donc fonder la congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Alors, ça serait important au XIXe siècle parce que, elle va s'occuper des esclaves, va aller en Guyane, par exemple, des lépreux, des blessés. Et donc, on retrouve ça, bien sûr, modernisé, déjà les périphéries de cette époque, aujourd'hui, dans l'apostolat de cette congrégation. Et elle va être à l'origine, si on peut dire, des premières ordinations de prêtres sénégalais. Voilà.
Ensuite, il y a le père Lataste qui a donné sa vie pour que Saint-Joseph soit déclaré patron universel de l'Église.
Alors, le père Lataste naît plus tard, 1833, il meurt jeune, 36 ans, 1869. Dans un premier temps, ce que veut faire le père Lataste, c'est venir en aide aux femmes qui sortent de prison. Donc il va leur venir en aide, il va vouloir fonder une congrégation religieuse, il ne va pas pouvoir dans un premier temps, et il va avoir le désir, effectivement, que le patronage de Saint-Joseph soit proclamé par le pape, 1869, vous voyez, 1870, et il va donc offrir sa vie pour cela, et il va effectivement mourir jeune, et donc Pie IX va proclamer Saint-Joseph comme patron de l'Église universelle. Alors Pie IX, quand il sait cela, dit que, il y a des gens qui ont demandé, 500 personnes ont demandé le patronage, mais que le père Lataste, dont lui, a offert sa vie. Alors, il y a aussi un tas de congrégations religieuses consacrées à Saint-Joseph, Saint-Joseph de Tarbes, près de chez nous, Cantaus, de Lyon, de l'Apparition, et qui ont, l'inspiration et patronage de Saint-Joseph et sa protection, voilà, qui s'occupent de soins, qui s'occupent d'éducation et aussi de mission.
Vous voulez nous parler de Saint-Joseph, un sanctuaire qui se trouve
au
Canada.
Au Canada. Saint-Joseph de Montréal, il a été fondé par un religieux, le frère André, qui a été canonisé par Benoît XVI, donc il y a peu. Le frère André est d'une famille pauvre et éprouvée. Il est éprouvé lui-même dans sa santé. Il va entrer dans la congrégation de la Croix Montréal. Il a une certaine aura. Il prie Saint-Joseph et il y a des malades qui guérissent. Bon, donc ça va accroître la dévotion à ce saint. Il va construire, ça va lancer plutôt la construction d'un gigantesque sanctuaire à Saint-Joseph du Mont-Royal. Il va y avoir de l'affluence, des agrandissements, des problèmes financiers, parce que durant la crise économique des années 30, ben voilà, on menace d'arrêter cette construction parce que pas trop les sous, en plus par-dessus marché. On est au Canada, donc il y a de la neige et du gel, on ne peut pas poursuivre les travaux. Et frère André va dire, ben écoutez, mettez une statue de Saint-Joseph, confiez-lui un peu cela, et bien sûr, bien voilà, les difficultés vont s'aplanir et le sanctuaire terminé de se construire. Et il reçoit 2 millions de visiteurs par an.
Ce qui n'est pas rien.
Ce qui n'est pas rien.
Abbé Philippe Beitia, un grand merci à vous pour ces 8 émissions consacrées à Saint-Joseph. On aurait pu bien sûr dire beaucoup d'autres choses. Pour clôturer cette série d'émissions, Abbé Beitia, peut-être une prière par l'intercession de Saint-Joseph.
Voilà, la prière, la très belle prière liturgique du 19 mars. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié au bienheureux Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, soutenue par sa prière, de veiller toujours sur leur achèvement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Amen. Merci à vous, Abbé Philippe Beitia.
Et si on parlait de Saint-Joseph ? Abbé Philippe Beitia, chancelier et responsable du service de pastoral liturgique et sacramentel du diocèse de Bayonne, au micro d'Alexandra Guerre.